Huitième partie. Torchon et serviette. 25 juillet. 1. Finalement, Holly ne voyagea pas en classe affaires. Même s'il aurait pu le faire en choisissant le vol Delta de 10h15 qui l'aurait conduite à Cap City à 12h30. Souhaitant prolonger son séjour dans l'Ohio, elle avait fractionné son voyage en 3 étapes. En empruntant de petits coucous qui allaient probablement la secouer dans le ciel agité de juillet. Un trajet pas très agréable, à l'étroit, mais supportable. Ce qu'il était moins, c'était de savoir qu'elle n'arriverait pas à Flint City avant 18h, en supposant que ses correspondances s'enchaînent à la perfection. La réunion au cabinet de Howie Gold débutait à 19h, et Holly détestait par-dessus tout arriver en retard à un rendez-vous. C'était l'assurance de ne pas partir d'un bon pied. Elle rassembla ses quelques affaires, régla sa note d'hôtel et parcourut la 50aine de kilomètres qui la séparait de Regis. Tout d'abord, elle se rendit dans la maison où Heath Holmes avait séjourné au cours de ses vacances avec sa mère. Tout était fermé, les fenêtres condamnées par des planches, sans doute à cause des vandales qui s'en servaient comme cible pour lancer des pierres. Dans le jardin, qui avait sacrément besoin d'être tondu, une pancarte indiquait « À vendre ». Contacter la First National Bank de Dayton. En regardant la maison, Holly devina que les gamins du coin ne tarderaient pas à raconter qu'elle était hantée, si ce n'était déjà fait, et elle médita sur l'essence de la tragédie. À l'instar de la rougeole, des oreillons et de la rubéole, la tragédie était contagieuse. Mais il n'existait pas de vaccin. La mort de Frank Peterson à Flint City avait contaminé sa malheureuse famille et s'était répandue à travers toute la ville. Sans doute était-ce différent dans cette communauté de banlieue où les gens entretenaient des liens moins forts, mais la famille Holmes avait bel et bien disparu. Il n'en restait que cette maison vide. Elle envisagea de photographier la maison aux fenêtres condamnées avec le panneau à vendre au premier plan, l'image même du chagrin et du deuil, puis se ravisa. Certaines des personnes qu'elle allait rencontrer comprendraient peut-être. Elles ressentiraient ces choses, mais la plupart probablement pas. Pour elles, ce ne serait qu'une photo. Holly se rendit ensuite au cimetière du Repos Paisible, situé en périphérie. Là, elle trouva la famille de nouveau réunie, le père, la mère et le fils unique. Il n'y avait aucune fleur, et la pierre tombale marquant la sépulture de Heath Holmes avait été renversée. Holly imagina que celle de Terry Maitland avait dû connaître un sort identique. Si la tristesse était contagieuse, la colère aussi. C'était une petite pierre tombale toute simple, portant uniquement le nom du défunt, ses dates de naissance et de mort, et une tache de matière séchée qui était peut-être un reste d'œuf. Au prix d'un gros effort, Holly redressa le lourd bloc de pierre, sachant qu'il ne resterait pas longtemps debout. Mais chacun faisait ce qu'il pouvait.
« Vous n'avez tué personne, n'est-ce pas, monsieur Holmes? Vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà tout. »
Avisant un petit bouquet sur une tombe voisine, elle emprunta quelques fleurs pour les déposer sur celle de Heath. Des fleurs coupées constituaient une piètre commémoration. Elle mourrait également. Mais c'était mieux que rien.
« Vous voilà condamné pour l'éternité. Personne ici ne croira jamais la vérité. Et ces gens que je vais rencontrer ce soir ne la croiront pas non plus. »
Malgré tout, elle s'efforcerait de les convaincre. Chacun faisait ce qu'il pouvait. Qu'il s'agisse de redresser une pierre tombale ou de convaincre des hommes et des femmes du XXIe siècle que dans ce monde il existait des monstres d'autant plus forts que des individus rationnels refusaient de croire à leur existence. En regardant autour d'elle, Holly aperçut un caveau sur une colline basse. Dans cette partie de l'Ohio, il n'y avait pas de haute colline. Elle s'en approcha pour lire les noms gravés sur le linteau de granit, puis descendit les 3 marches et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Où des bancs de pierre permettaient de s'asseoir et de méditer sur les morts du temps jadis inhumés en ce lieu. L'inconnu s'était-il caché ici après avoir accompli son geste infâme? Pas d'après elle, car n'importe qui, peut-être même un des vandales qui avait renversé la pierre tombale de Heath Holmes, pouvait monter jusqu'ici, poussé par la curiosité. En outre, le soleil éclairait sans doute cette zone de méditation durant 1 heure ou 2 dans l'après-midi, et s'il était ce qu'elle croyait, il préférait l'obscurité. Pas toujours, non, pas pendant certaines périodes cruciales. Holly n'avait pas achevé ses recherches, mais elle en était quasiment certaine. Et puis, il y avait autre chose. Si le meurtre représentait l'œuvre de sa vie, la tristesse en était le moteur. La tristesse et la colère. Alors non, il n'avait pas cherché le repos dans ce caveau. En revanche, elle devinait qu'il était venu dans ce cimetière, peut-être même avant les décès de Mavis Holmes et de son fils. Holly avait l'impression, tout en sachant qu'il s'agissait certainement d'un effet de son imagination, de sentir sa présence. Brady Hartsfield dégageait cette même odeur, la puanteur du surnaturel. Bill le savait. Et les infirmières qui s'étaient occupées de Hartsfield aussi, même s'il était censé se trouver dans un état de semi-catatonie. Sans se presser, elle regagna le petit parking du cimetière, son sac cognant contre sa hanche. Sa Prius l'attendait sous un soleil estival cuisant. Elle passa devant sans s'arrêter, puis pivota lentement sur elle-même pour étudier le décor environnant. La campagne n'était pas loin, elle sentait les effluves d'engrais. Mais ici, c'était une zone de transition, industrielle autrefois, laide et désolée. Elle ne figurerait pas dans les brochures publicitaires de la chambre de commerce, à supposer que Regis possède une chambre de commerce. Il n'y avait rien à visiter, rien qui attire le regard. Celui-ci était rebuté au contraire, comme si cette terre elle-même criait « Fichez le camp, y a rien pour vous ici, adieu et ne revenez pas !» Il y avait bien le cimetière, mais une fois l'hiver de retour, peu de gens visitaient le repos paisible, et le vent du nord glacial chassait vite les rares personnes venues honorer, brièvement, les défunts. Un peu plus loin, il y avait une voie ferrée, mais les rails étaient rouillés et des mauvaises herbes poussaient entre les traverses. Les fenêtres de la gare, depuis longtemps abandonnées, étaient condamnées par des planches, elles aussi, comme celles de la maison des Holmes. Derrière, sur une voie de garage, stationnaient deux wagons de marchandises dont les roues avaient été avalées par les plantes grimpantes. Ils semblaient dater de la guerre du Vietnam. Autour de la gare désaffectée, d'anciens entrepôts, abandonnés depuis longtemps eux aussi, et ce qu'elle devinait être des ateliers, devenus inutiles. Au-delà se dressait une usine à moitié en ruine, enfoncée jusqu'à la taille dans les tournesols et les buissons. Quelqu'un avait peint un svastika à la bombe sur le mur de briques délabré qui avait été rouge autrefois, il y a très, très longtemps. D'un côté de l'autoroute qui la ramènerait en ville, un grand panneau d'affichage, de guingois, affirmait « L'avortement arrête un cœur qui bat, choisissez la vie ». De l'autre côté, un bâtiment long et bas était surmonté d'une enseigne qui annonçait « Speedy Robo Car Wash ». Devant, sur le parking désert, Holly remarqua une pancarte semblable à celle qu'elle avait déjà vue. « À vendre. Contactez la First National Bank de Dayton. »
« Je pense que tu es venu ici, pas dans le caveau, mais tout près, pour sentir l'odeur des larmes quand le vent souffle dans la bonne direction, pour entendre les rires des hommes ou des garçons qui ont renversé la pierre tombale de East Holmes et sans doute uriné dessus. »
Soudain, malgré la chaleur, Holly frissonna. Si elle avait eu plus de temps, elle aurait pu explorer ces lieux déserts. Il n'y avait plus aucun danger. L'Outsider avait quitté l'Ohio depuis longtemps. Et sans doute avait-il quitté Flint City également. Elle prit 4 photos avec son iPad. La gare, les wagons de marchandises, l'usine, la station de lavage. En les faisant défiler sur l'écran, elle décréta qu'elle ferait l'affaire. Il faudrait bien. Elle avait un avion à prendre.
Et des gens à convaincre.
Si elle y parvenait. À cet instant, elle se sentait toute petite et seule. Il était facile d'imaginer les rires et le ridicule, des réactions auxquelles elle pensait, naturellement. Malgré tout, elle essaierait. Il le fallait. Pour les enfants assassinés, oui, Frank Peterson, les filles Howard et ceux qui les avaient précédés. Mais aussi pour Terry Maitland et East Holmes. Chacun faisait ce qu'il pouvait. Il lui restait un arrêt à effectuer. Coup de chance, c'était sur son chemin. 2. Un vieil homme assis sur un banc du square de Trotwood se fit un plaisir de lui indiquer l'endroit où avaient été découverts les corps de ces pauvres petites. Ce n'était pas loin, précisa-t-il, et elle ne pouvait pas le louper. En effet. Holly se gara, descendit de voiture et contempla le fossé que des personnes éplorées et des amateurs de frissons avaient tenté de transformer en hôtel. Il y avait de nombreuses cartes scintillantes sur lesquelles prédominaient des mots tels que « chagrin » ou « paradis ». Des ballons également, certains dégonflés, d'autres plus récents, même si Amber et Jolene Howard avaient été découvertes 3 mois plus tôt à cet endroit. Il y avait une statuette de la Vierge Marie, qu'un petit plaisantin avait affublé d'une moustache, et un ours en peluche qui fit frissonner Holly. Son corps grassouillet et marron était couvert de moisissures. Elle leva son iPad pour prendre une photo. Elle ne retrouvait pas les effluves de cette odeur qu'elle avait perçue ou crut percevoir au cimetière. Mais elle aurait parié que l'inconnu était venu ici à un moment ou à un autre après la découverte des corps, afin de renifler le chagrin de ces pèlerins qui se recueillaient devant cet hôtel de fortune, comme on hume un bon vin, et respirer l'excitation de ceux, peu nombreux, mais il y en avait toujours quelques-uns, qui étaient là pour imaginer ce que l'on pouvait ressentir en accomplissant un tel geste, et pour écouter les hurlements des jeunes victimes.
Oui, tu es venu, mais pas tout de suite, pas avant d'être sûr de ne pas attirer l'attention. Comme c'est arrivé le jour où le frère de Frank Peterson a abattu Terry Maitland. « Tu n'as pas pu résister cette fois-là, hein ?»
murmura Holly.
« Tu étais comme un homme affamé face à un repas de Thanksgiving. »
Un minivan s'arrêta devant la Prius de Holly. Deux autocollants ornaient le pare-choc. Le premier proclamait « Mom's Taxi » et le second « Je crois au deuxième amendement et je vote. » La femme qui en descendit, la trentaine, était bien habillée, grassouillette, jolie. Elle tenait un bouquet de fleurs. Elle s'agenouilla et le déposa à côté d'une croix en bois sur laquelle on avait écrit « Petite fille » dans un sens et « Avec Jésus » dans l'autre. Puis elle se redressa.
« C'est triste, hein ?»
dit-elle en s'adressant à Holly.
« Oui, je suis chrétienne et malgré cela, je suis contente que l'homme qui a fait ça soit mort. Oui. Contente. Je suis contente qu'il soit en enfer. C'est horrible de ma part, non ?»«
Il n'est pas en enfer, » répondit Holly.
La femme eut un mouvement de recul, comme si on l'avait frappée.
« Il apporte l'enfer. »
Holly se rendit à l'aéroport de Dayton. Bien que légèrement en retard, elle résista à l'envie de dépasser la vitesse autorisée. S'il y avait des lois, ce n'était pas pour rien. 3. Voyager en empruntant de petits avions, Camelot Airways, comme disait Bill, présentait certains avantages. Premièrement, son dernier vol la déposa à l'aéroport de Kiowa, à Flynn County, ce qui lui évita de faire 100 km depuis Cap City. Autre intérêt des sauts de puce, cela lui permit de poursuivre ses recherches. Durant les brèves escales entre deux avions, elle utilisa le Wi-Fi des aéroports pour télécharger le maximum d'informations. Et pendant les vols eux-mêmes, elle lut ce qu'elle avait récupéré, faisant défiler les documents à toute vitesse sur son écran. Tellement concentrée qu'elle entendit à peine les cris d'effroi des autres passagers lorsque le deuxième avion, un turbopropulseur de 30 sièges, traversa un trou d'air et chuta comme un ascenseur. Holly arriva à destination avec seulement 5 minutes de retard sur son planning, et en pressant le pas, elle fut la première à se présenter au comptoir de chez Hertz. Ce qui lui valut un regard noir de la part du représentant de commerce surchargé de bagages qu'elle devança grâce à un sprint final. Sur le trajet qui la conduisait en ville, voyant approcher l'heure fatidique du rendez-vous, elle céda à la tentation et dépassa la vitesse autorisée. Mais de 10 km/h seulement. 4.
La voilà, c'est forcément elle.
Howie Gold et Alec Pelley se tenait devant l'immeuble qui abritait le cabinet de l'avocat. Ce dernier désignait une femme svelte en tailleur gris et chemisier blanc qui trottinait sur le trottoir. Un gros sac fourre-tout cognait contre sa hanche fine. Ses cheveux courts encadraient son petit visage. Une frange veinée de mèche grise s'arrêtait juste au-dessus de ses sourcils. Exception faite d'un soupçon de rouge à lèvres presque effacé, elle ne portait aucun maquillage.
Si le soleil se couchait, il faisait encore chaud, et un filet de sueur coulait sur une de ses joues.
« Mademoiselle Gibney ?»
demanda Howie en s'avançant.
« Oui, »
dit-elle, haletante.
« Je suis en retard. »
« En fait, vous avez 2 minutes d'avance, » répondit Alec. « Puis-je prendre votre sac ? Il semble lourd. »
« Ça va, merci. »
Elle regarda successivement l'avocat corpulent et dégarni, puis le détective privé qui l'avait engagé. Pelé mesurait au moins 15 centimètres de plus que son patron. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés en arrière. Il portait un pantalon beige et une chemise blanche au col ouvert.
« Les autres sont déjà arrivés ?»«
L'inspecteur Anderson ? Ah, quand on parle du loup, » dit Alec.
En se retournant, Holly vit 3 personnes approcher, dont une femme d'âge mûr qui avait conservé la beauté de ses jeunes années, malgré les cernes, mal masquée par du fond de teint et un peu de poudre, qui suggérait qu'elle dormait mal ces temps-ci. À sa gauche, se tenait un homme maigre, visiblement nerveux, affligé à l'arrière du crâne d'un épi qui se détachait de sa chevelure parfaitement maîtrisée par ailleurs. Et à sa droite, l'inspecteur Anderson était un homme grand, aux épaules tombantes, menacé par l'apparition d'une bedaine s'il ne faisait pas plus de sport et davantage attention à ce qu'il mangeait. Sa tête penchait légèrement vers l'avant, et ses yeux, d'un bleu éclatant, la parcoururent de haut en bas, de la proue à la poupe. Non, ce n'était pas Bill, bien évidemment. Bill était mort il y a 2 ans et il ne reviendrait pas. En outre, cet homme semblait bien plus jeune que Bill à l'époque où elle l'avait rencontré. La ressemblance venait de cette curiosité avide. Il tenait la femme par la main, d'où on pouvait déduire qu'il s'agissait de Madame Anderson. Intéressant qu'elle soit venue avec lui. Tout le monde se présenta. L'homme maigre à l'épi sur le crâne était le procureur de Flint County. « William, appelez-moi Bill, je vous en prie, Samuels. »«
Montons dans mon bureau, » proposa Howie. « Il fera plus frais. »
Madame Anderson, Janet, demanda à Holly si elle avait fait bon voyage, et Holly donna la réponse appropriée. Après quoi, elle se tourna vers Howie pour savoir si son bureau était équipé d'un système de projection audiovisuelle.
« Bien évidemment, »
lui dit-il, et elle pourrait l'utiliser à sa guise si elle souhaitait leur présenter des documents. Quand ils sortirent de l'ascenseur, Holly demanda où se trouvaient les toilettes.
« J'en ai juste pour 1 minute ou 2, j'arrive directement de l'aéroport. »
« Bien sûr, à gauche, au fond du couloir. »
Holly craignait que Madame Anderson décide de l'accompagner, mais il n'en fut rien. Tant mieux. Car si Holly avait effectivement envie de faire pipi, aller au petit coin, disait sa mère, elle avait autre chose de plus important à faire et qui nécessitait la plus grande intimité. Assise sur la cuvette, jupe relevée, son sac glissé entre ses chaussures confortables, elle ferma les yeux. Sachant que les espaces carrelés comme celui-ci amplifiaient tous les sons, elle pria en silence.
« C'est encore Holly Gibney. J'ai besoin d'aide. Vous savez que je ne suis pas très douée avec les inconnus, même en tête à tête, et ce soir, je veux en avoir 6 devant moi. 7 si la veuve de M. Maitland est présente. Je mentirais en disant que je ne suis pas nerveuse. Bill saurait s'y prendre, lui, mais je ne suis pas Bill. » Aidez-moi à me montrer à sa hauteur. Aidez-moi à comprendre leur incrédulité naturelle et à ne pas en avoir peur. »
Elle conclut à voix haute, mais dans un murmure.
« Je vous en supplie, Seigneur, aidez-moi à ne pas merder. »
Après un silence, elle ajouta.
« Je n'ai pas fumé.